L'administration fédérale américaine a presque, on l'a frôlé, presque été paralysée vendredi, mais finalement, on a adopté le budget provisoire Donald Trump. Ça a pris de l'aide de quelques démocrates.
Oui, en effet.
Une dizaine à peu près pour faire passer le budget.
Une dizaine de sénateurs démocrates qui ont voté en faveur du budget de Donald Trump. Et ce budget-là, il y a des coupes vraiment drastique dans l'appareil public. Donc, c'est ce qui a surpris tout le monde.
Beaucoup dans l'éducation, hein, aussi.
Énormément dans l'éducation.
On va jaser de tout ça avec Luc Laliberté, qui est chroniqueur au Journal de Québec, enseignant en histoire des États-Unis et des Amériques au Cégep Garneau. Luc, bon lundi matin.
Oui, bon lundi matin.
Merci d'être là. Toujours un plaisir, mon ami.
Plaisir partagé.
Luc, es-tu surpris de voir 10 sénateurs démocrates voter pour le budget de Donald Trump vendredi?
Dans les circonstances actuelles, oui et non. C'est-à-dire que ce qui m'a étonné dans le choix des 10 de voter en faveur du budget que souhaite Donald Trump, c'est l'absence quasi totale de négociation. On était dans une situation où on approchait de leur limite, donc les fameux shutdowns, la fameuse fermeture des services gouvernementaux. Et je m'attendais à ce que les démocrates tentent de négocier minimalement. Je pense que personne ne voulait en arriver à un shutdown ou à une fermeture de services gouvernementaux. Un, parce qu'il y a des gens, il y a des humains et des citoyens américains au bout de ça qui vont payer le prix d'une fermeture. Et de l'autre côté, Chuck Schumer, qui est le meneur des démocrates, avait clairement dit « Je ne voudrais pas que dans l'opinion publique, alors qu'on commence à se réveiller face à ce que représente l'administration Trump 2.0, j'ai l'impression qu'on aurait un œil au beurre noir, que c'est nous qui serions considérés comme les principaux responsables. Donc, y avait déjà cette tendance. De l'autre, il y a une division très forte chez les démocrates au moment où on se parle. C'est le cas dans les deux grandes formations politiques. C'est gigantesque, hein, les deux partis, républicains et démocrates. Il n'y a que ces deux formations qui se démarquent au plan national. Puis les démocrates sont divisés. Depuis l'élection, là, ça commence à faire un bout de temps. Là. Au début, on disait ils assument le choc. Mais depuis qu'ils ont été vaincus en novembre, on n'a pas vu de grande sortie du Parti démocrate. Mm-hmm. Il y a quelques élus ici et là qui ont marqué leur désaccord. Mais il n'y a personne, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de leader de voix au plan national qui dit « Voici quels sont nos objectifs, voici quel est le message principal. » On réagit de manière plus ou moins spontanée à certains endroits. Mais donc, les démocrates, là-dedans, donc je dis, c'est pas surprenant parce qu'on voulait pas être associé à ça, ce qui, à une fermeture de services gouvernementaux, ce qui, pour ma part, est étonnant, donc c'est l'absence de négociation. C'est Chuck Schumer, très vite, finalement, moi, c'est dans le langage populaire, on dit, il s'est couché devant les républicains, devant les demandes de Donald Trump.
Ouais, Luc, est-ce que c'est la division au sein du parti qui explique le silence des démocrates et qui explique aussi le manque de négo?
Écoute, il y a ce choc, puis il y a le manque d'unité. Je pense qu'on ne sait pas trop pour cette deuxième administration Trump. On n'a pas encore dégagé de stratégie. Qu'est-ce qu'on veut? Puis en fait, c'est une stratégie au plan des communications. Dans les faits, les démocrates travaillent à la Chambre, ils travaillent au Sénat. Ils sont aussi devant les tribunaux pour les causes qu'on cumule finalement devant les tribunaux. On ne sait toujours pas si Donald Trump va accepter de les respecter, les décisions des tribunaux. En fin de semaine, il a déporté des Vénézuéliens contre l'avis d'un juge. Donc, c'est déjà un accroc qui est très, très, très grave.
Oui, puis 200 en plus, là, c'est un bon nombre qu'il a déporté.
Oui, c'est ça. Puis il a choisi ceux avec lesquels il défie la loi, bien sûr. Il y a à l'intérieur des 200, on n'est pas certain que les 200 le sont. Il y a des gens qui font partie d'un groupe qu'on qualifie de terroristes, qui est Tren de Aragua. Et on a dit, on va le faire parce qu'on ne veut pas de ces criminels aux États-Unis. Mm-hmm. Autour du groupe, il y a déjà un flou. On n'en sait pas beaucoup sur les 200. Puis ensuite, je pense que tout le monde va être d'accord. On veut déporter des criminels, on veut qu'ils soient confrontés à la justice et on ne veut pas qu'ils sévissent chez nous. Maintenant, est-ce que pour ça, on doit défier la loi? C'est une porte ouverte à pire, finalement. Si on est capable de défier la loi là-dessus, on va le faire sur autre chose.
Oui, Donald Trump qui défie plusieurs lois et règlements. Puis je veux revenir sur l'éducation parce que du côté de l'administration Trump, on a congédié la moitié des employés fédéraux attitrés à l'éducation. Est-ce qu'on est en train de mettre la hache dans le système d'éducation aux États-Unis du côté de Donald Trump?
Ça aussi, c'est un autre dossier qui est intéressant, qui peut avoir des effets catastrophiques, mais qui est intéressant. Il faut savoir que l'éducation aux États-Unis, ça relève des États. Quand on a fait la Constitution américaine, on a dit tous les pouvoirs qui sont pas écrits, conférés au gouvernement fédéral, ça va entre les mains des États. Donc, en théorie, aux États-Unis, il y a 50 systèmes d'éducation différents. Pourquoi avoir donc dédoublé ou pourquoi avoir un ministère de l'éducation ou un département de l'éducation fédéral? On a constaté avec les années qu'il y avait des lacunes dans les États, dans différents États, pour venir en aide à ceux qui sont les plus démunis, aux plus pauvres, on parle de l'éducation publique, puis à ceux aussi qui sont en difficulté d'apprentissage, qui ont des problèmes particuliers. Donc, on a dit au fédéral, on va prendre une partie de l'argent qu'on perçoit dans les impôts et on va redistribuer ça pour tenter de niveler les chances, que tout le monde ait vraiment, dans le système public, une chance égale de se démarquer ou de cheminer, d'améliorer son sort grâce à l'éducation. Donc, Donald Trump vise l'éducation parce qu'il dit, écoutez, ça se fait déjà dans les États. On a tout simplement à retourner, on abolit ça, puis on retourne ça dans les États. Ce sera à eux de gérer ça. Ce que les années d'expérience ont démontré, c'est que quand on fait ça, il y a des perdants. Mais ça se détend. Il y a beaucoup de gens depuis longtemps qui disent, on devrait abolir ce ministère-là, sauver de l'argent, ou encore prendre l'argent qu'on a investi là-dedans et la redonner aux États. Ceux qui déplacent ça disent, voilà, on a des années et des années d'expérience. Le fédéral est là pour soutenir. Et si on ne le fait pas, il y a des gens carrément qui se retrouvent sans service, sans éducation. Donc, le gouvernement fédéral est là pour soutenir. Quand il parle d'abolir le ministère de l'Éducation, Donald Trump ne peut pas faire ça tout seul. Donc, il a absolument besoin du Congrès parce qu'un département ou un ministère, c'est créé par le Congrès, par les élus aux États-Unis. Donc, le président ne peut pas fermer ça tout seul, à moins, encore une fois, de vouloir défier les règles et la Constitution. Donc, ce qu'il fait, c'est le next best thing pour lui. Hein? Ouais. C'est la chose qui reste à faire, c'est coupons-leur les vies. Réduisons cet appareil-là au strict minimum. Donc, je le ferme pas, je le laisse en opération, mais pour des millions de jeunes Américains, il y a déjà des conséquences de ce que Donald Trump a fait ou a pris comme décision.
Ouais, hey, Luc, est-ce que Donald Trump, avec ses récentes décisions, est en train de tranquillement installer un système totalitaire aux États-Unis?
On n'est pas encore rendu là. Okay. Je fais toujours attention aux mots que j'utilise. Oui. Mais assurément, ce qu'il fait, c'est tout ce qu'il peut finalement pour regrouper autour de sa seule personne le plus de pouvoir possible. Juste à l'intérieur du pouvoir exécutif, juste ce qui concerne le président, Donald Trump a fait énormément déjà. Le système américain, il a été pensé pour séparer les pouvoirs. Donc, on quittait une monarchie, hein, si on remonte à l'origine des États-Unis. On voulait séparer les pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Dans la tête des pères fondateurs, déjà, le pouvoir législatif devait être le plus important. C'est pas l'impression qu'on a quand on regarde les États-Unis. On se dit toujours, non, c'est le président, hein, c'est l'homme le plus puissant de la planète.
Ben oui, tu peux signer des décrets comme il veut.
Ben voilà. Donc, ça n'a pas été pensé comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'aime bien que tu reviennes avec l'idée des décrets. C'est la raison pour laquelle il y a des tribunaux qui reviennent contre ces décrets et qui disent « Non, ça fonctionne pas. Vous aviez pas le droit de faire ça. » Maintenant, à l'intérieur même de ces pouvoirs, au sein de l'appareil exécutif, au sein de l'appareil d'État plutôt, Donald Trump est enfin, on appelle ça des contrepoids ou des limites à son pouvoir. Il est donc en train de faire tomber ces contre-pouvoirs-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, ce qu'il fait est, à mon avis, grave. C'est une dérive par rapport à ce qu'on pensait quand on a fait ce système-là. Maintenant, ça demeure une démocratie, ce n'est pas encore un régime autoritaire, parce qu'on voit, ne serait-ce que devant les tribunaux, la justice qui s'applique. Ce qu'il va falloir surveiller, si on parle de régime autoritaire, vraiment, ou si on parlait de dictature, il faudra voir, y aura-t-il des élections en 2026? Comment tout ça pourrait prendre fin? Est-ce que Donald Trump va se soumettre aux tribunaux, par exemple? Peut-il ordonner à l'armée de faire des choses qui sont en contravention avec le droit international? Il y en a plusieurs qui regardent et qui disent mais comment il va se comporter avec le Panama, avec le Groenland, avec le Canada, avec le Mexique. Donc, c'est ce genre de choses-là à venir, c'est ce genre de choses-là qui nous inquiètent. Mais au moment où on se parle, ce n'est pas un régime autoritaire. Mais on a beaucoup d'indicateurs qui nous disent ou qui indiquent faut surveiller ça sérieusement parce qu'il y a quelque chose derrière ce qu'il est en train de faire et il applique carrément, presque mot pour mot, ce qu'on a appelé, en fait, ça s'appelle comme ça, le projet 2025. S'il y en a qui veulent voir quels sont les prochains coups que va faire Donald Trump, ça existe, c'est en ligne, le projet 2025. C'est une brique en passant. C'est 900 pages et je serais très malhonnête si je vous disais ce matin que j'ai lu attentivement des 900 pages. Je me suis intéressé à plusieurs chapitres, puis aux chapitres qui concernent les pouvoirs du président. Mais jusqu'à maintenant, ce que je vois, c'est qu'il applique carrément ce plan-là. Et ce plan-là a été mis en place ou songé, réfléchi par ce qu'on appelle un think tank, un groupe de réflexion américain qui voulait faire du président, donc quelqu'un de beaucoup plus puissant qu'il ne l'est et quelqu'un de beaucoup plus puissant que ce qu'on prévoyait à l'origine des États-Unis.
Luc, je termine avec cette question-là pour toi, puis tu l'as effleuré tout à l'heure avec oui. les attaques de Donald Trump, Groenland notamment, Canada, Panama. Est-ce capital pour Mark Carney, dans sa visite éclair en Europe, de convaincre le président français Emmanuel Macron et le premier ministre de l'Angleterre, Keir Starmer, de s'affirmer pour la souveraineté du Canada compte tenu du contexte géopolitique avec les États-Unis?
Ah, moi, je pense que c'est absolument nécessaire. On a eu, pendant le G7, c'est tout récent,
oui.
mais on a eu des gens qui ont d'abord dit, c'est ce que Mélanie Joly, la ministre, nous a rapporté par la suite, il y en a qui ont dit « Ah, on pensait que c'était une blague, on pensait que c'était ouais. une boutade du président Trump. »
Oui, bien, même nous autres aussi, au début, on pensait que c'était une blague, Luc.
Voilà. Mais je pense que la déclaration venait après le sommet, c'est venu de l'Estonie, qui disait « Notre sécurité à tout le monde, c'est le respect des frontières, ce n'est pas négociable. » Moi, j'aime pas ce que j'entends quand le président Trump parle de la frontière, qui est tout à fait légitime, les traités sont là. Ça fait 200 ans qu'on n'a pas remis ça en question, la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et je pense que Mark Carney, avec deux objectifs différents, je pense que pour notre intérêt commun au Canada, et lui au plan politique, parce qu'il va affronter M. Poilievre bientôt, je pense que ça doit être une priorité pour lui que d'aller chercher ses appuis, des déclarations fortes. Et je pense que comme Canadien, si on n'a pas encore compris le message qu'on devait accélérer les liens qu'on développe présentement avec l'Union européenne, avec l'Angleterre, je pense qu'on s'est fié beaucoup aux États-Unis pendant très, très longtemps. Si tout se passait pour le mieux, ben on continuerait à être de bons complices et de bons partenaires. Mais je pense qu'il faut accélérer ce qu'on fait comme ce qu'on a comme développement de liens et même de liens commerciaux avec l'Europe.
Luc Laliberté, chroniqueur au Journal de Québec et enseignant en histoire des États-Unis et des Amériques au Cégep Garneau. Luc, merci beaucoup pour la jasette ce matin.
Une bonne journée à vos auditeurs, une bonne journée à vous.
Merci, à bientôt.
Merci, Luc.
Luc Laliberté.
Ah, une véritable bible de l'histoire des États-Unis. Je l'adore. Et puis, on comprend bien, t'sais, les coupes en éducation sont présentes pour venir décentraliser les pouvoirs, ce que justement on parle beaucoup ouais. au Québec, donc on ne peut pas nécessairement être contre. Par contre, elles sont faites de façon très drastique. Il n'y a pas nécessairement de plan justement qui permet de redonner ces pouvoirs-là aux États. Je vais le dire comme ça, là, dans une transition normale. Mais oui, au niveau du Canada, il faut vraiment travailler très fort avec nos alliés pour se protéger des États-Unis. On ne sait vraiment pas ce que Donald Trump a derrière la tête et ce qu'il pourrait faire dans ce mandat-là de 4 ans.
7h44 minutes en ce lundi matin. Courte pause publicitaire et ensuite, notre chroniqueuse politique, Jacinthe-Ève Harel, est avec nous en studio. On s'arrête.